une amie, sa maman, elle était médecin dans un service des urgences. Elle avait un poste assez haut et elle a fait ça toute sa vie. Et là, elle doit avoir la cinquantaine. Et elle a décidé de tout plaquer, de tenter plein de métiers qui la faisaient un peu rêver quand elle était jeune. Et du coup, elle a commencé par se mettre à mi-temps et maintenant, elle a complètement arrêté. Et là, elle veut tester plein de métiers différents.
Il y a beaucoup plus de gens que vous l'imaginez qui changent à 50 ans. Moi, j'ai 72 ans, j'ai été formateur pendant 20-30 ans. Avant, j'étais graphiste. Et depuis 4 ans, ce que je n'aurais même pas imaginé il y a 5 ans, depuis 4 ans, j'ai arrêté de faire la formation parce que ça me saoulait. Et je suis devenu prof dans les écoles de commerce. Donc, sur les matières que je connaissais, management, communication. Donc, les changements, alors c'est pas un changement profond de métier, je continue à faire de la formation d'une autre manière, mais c'est un autre univers, il a fallu que j'envoie des candidatures spontanées, que je rencontre des directeurs d'école. Bon. Et voilà, donc les changements, c'est à tout moment que ça peut venir.
Je m'appelle Emmanuel de Secati, je fais partie de l'association depuis 4 ou 5 ans maintenant, donc les raconteurs d'itinéraires professionnels. C'est une association qui s'est créée il y a une dizaine d'années, une bande de copains, je dirais, de gens qui avaient l'envie d'avoir une action citoyenne, de s'engager dans quelque chose qui soit utile aux citoyens. C'était simplement pouvoir... dans un premier temps, s'orienter, c'était les idées qu'on avait partagées, on avait abouti à une idée commune qui était trouver un moyen d'aider des jeunes à appréhender le monde professionnel, le choix d'un métier, le choix d'une carrière, avec le moins d'angoisse possible, le moins d'anxiété possible.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent. Pour faire un petit ordre du jour, ça va être tout simple. Il va y avoir une bonne heure avec les raconteurs itinéraires professionnels.
On est venu à 4 raconteurs vous rencontrer. Gilles, Nadia, Emmanuel et moi, Jean-Pierre. 4 d'une association qui s'appelle les raconteurs d'itinéraires professionnels. Alors, je vous mets à l'aise, on ne raconte pas nos itinéraires parce qu'ils sont spécialement intéressants. J'irais presque, ils sont, non pas qu'ils ne soient pas intéressants, mais ils ne sont pas, ça n'a rien de, on n'a pas fait les championnats du monde de récits professionnels. Simplement, on est parti sur l'idée que ça pouvait être intéressant pour des jeunes entrant dans la vie professionnelle, mais au-delà de ça, pour des gens qui sont en phase de réflexion sur eux-mêmes, de changement professionnel, ça pouvait être intéressant d'entendre des choses vécues dans ce domaine, comment ça s'est passé en vrai. Pas dans les manuels, pas dans les sites internet, en vrai, pour chacun de nous, comment ça s'est passé.
On va vous présenter 7 petites capsules de membres de notre association, quelques vidéos de témoignages de moments dans la vie où il s'est passé un truc qui a fait que quelque chose a changé, et comment on a vécu ça.
Les interventions qu'on effectue sont de 4 sortes. La première, c'est ce qu'on appelle le récit. Donc on est toujours au moins 3 raconteurs. On est devant un public et on raconte, en une vingtaine de minutes, notre parcours professionnel. Le deuxième, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a réalisé entre nous des petits témoignages, des petites capsules vidéo de 3-4 minutes où on raconte un moment dans notre vie professionnelle. Troisième type d'intervention, on appelle ça l'homme livre. L'idée, c'est de... Vous savez, quand on va dans une librairie et qu'on cherche un bouquin, on regarde la quatrième de couverture, et c'est cette quatrième de couverture qui nous donne envie ou pas d'aller plus loin. Donc on a, par rapport à notre histoire professionnelle, notre itinéraire, on a rédigé chacun d'entre nous un petit texte d'une dizaine ou vingtaine de lignes, un peu teasing, hein, qui donne envie d'en savoir plus. Donc on fait lire ces textes, et c'est eux qui nous interrogent. Donc c'est le système inverse de raconter son récit. C'est eux qui nous disent, bah tiens, vous dites à tel moment, un événement inattendu lui a fait qu'il est parti à Paris pour ses études. C'était quoi ce moment inattendu? Donc l'interaction est renversée. Et puis, le quatrième type d'intervention s'appelle point d'appui. Alors là, on le réserve à des publics plutôt adultes, qui sont déjà dans une logique d'accompagnement. L'idée, c'est de... travailler, de raconter comment nous, à certains moments, sur quoi on s'est appuyé pour nourrir notre réflexion ou aborder un changement d'une manière différente.
On va écouter Isabelle.
J'ai démarré ma vie professionnelle dans le monde associatif à Strasbourg, où j'ai d'abord commencé par un engagement jeune volontaire dans une association dont la mission était de répondre à toutes les questions des jeunes. J'ai fait cela pendant quelques années. À côté, j'avais des missions à la Chambre de commerce et dans un cabinet juridique. J'ai travaillé en tant que documentaliste. Je me suis bien plu dans ces missions. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de plus de challenge. Et en lisant la presse, j'ai vu qu'une nouvelle municipalité arrivait à Mulhouse et souhaitait inventer un nouveau service pour les jeunes. Du coup, j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit au maire et j'ai proposé mes services en disant que la jeunesse, c'est un sujet qui m'intéresse et que j'étais prêt à inventer avec eux un nouveau service pour les jeunes à Mulhouse. Pas de nouvelles. Et au bout de 3 mois, une délégation de la ville de Mulhouse arrive dans mes bureaux à Strasbourg et me dit « ça nous intéresse, on va co-construire ensemble un nouveau projet pour les jeunes mulhousiens ». Génial! Puis ils voulaient que ça démarre tout de suite, évidemment. Du coup, je suis partie avec mon bâton de pèlerin et avec cette belle délégation rechercher des locaux, faire les travaux. Je me suis transformée en chef de chantier, interviewer les jeunes, aller à la rencontre de toutes les structures qui existaient déjà sur le territoire mulhousien et se dire mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les jeunes de Mulhouse puissent devenir autonomes, rencontrer les acteurs qui les intéressent et construire leur parcours professionnel. Et c'est ainsi qu'on a créé une nouvelle association qui réunissait à la fois un bureau d'information jeunesse, une mission locale, un espace multimédia et un espace santé jeune. Fort de toutes ces rencontres, de tous ces partenaires, on a pu construire un projet qui existe toujours aujourd'hui, qui a bien grandi et qui répond encore à toutes les questions des jeunes. Cette opportunité de réponse à une candidature, une nouvelle municipalité qui arrivait sur un territoire, de rencontrer les acteurs, les élus, de travailler avec eux et de co-construire avec les jeunes un projet, ça a été formidable. J'ai lancé cette lettre de candidature comme une bouteille à la mer, je proposais mes services, j'étais toute jeune à ce moment-là, mais pendant ce temps-là, je continuais à travailler dans l'association dans laquelle j'étais. Donc, effectivement, le temps était long, mais je me suis dit, ma lettre est arrivée à un moment inopportun, ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre, ils sont déjà sur d'autres projets. Et puis un jour, ils débarquent dans mon bureau, et là, c'était mon plus beau cadeau de Noël, c'est-à-dire que, effectivement, eux, ils ont pris mon courrier, et puis ils ont continué à réfléchir avec leur réalité territoriale. Et quand ils sont venus, ils étaient prêts à construire. Et ça a été à la fois une reconnaissance de ma proposition et puis un travail partenarial de grande qualité.
Nous venons d'écouter l'extrait d'une vidéo projetée aujourd'hui. Effectivement, et vous l'aurez compris, aujourd'hui, il s'agit de 7 vidéos qui sont proposées aux étudiants présents dans l'assistance.
Moi, je dirais que la bouteille à la mer, c'est souvent quelque chose qui peut nous apporter finalement. Moi, par exemple, je suis étudiant en master et j'ai déjà réalisé des stages avant. Et il y avait un poste qui me plaisait énormément, sauf qu'il recherchait uniquement des CDI. Je m'étais dit pourquoi pas envoyer ma candidature. Au final, j'ai eu un entretien, le directeur a aimé ma candidature et j'ai eu le poste. Je ne dis pas ça forcément pour m'en raconter au poste, je dis juste que certaines fois, même quand on pense ne pas avoir de chance, mais qu'on veut avoir quelque chose derrière, c'est juste d'envoyer une lettre, de laisser postuler, et pourquoi pas derrière avoir le poste. Donc c'est une histoire qui m'a assez marqué et me suis reconnu dans ce témoignage.
Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous connaissez l'aquabonisme ? Est-ce que c'est un mot qui vous parle ?
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon.
L'aquabonisme, c'est une espèce de petit virus malin qu'on se chope tous à un moment ou à un autre, bon, et qui fait qu'on a tendance à se dire à quoi bon ? À quoi bon candidater ? À quoi bon pousser cette porte ? Je dois être le 200e, donc ils ont déjà reçu. Donc à quoi bon ? Alors que toi, ce que tu nous racontes, ou ce que Isabelle nous raconte, c'est l'inverse. C'est bon, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et ça, c'est. On rencontre souvent ce genre de. Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de la crainte, de l'anxiété, de manque de confiance ? Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un sujet sur lequel. On vous invite à un virus qu'on vous invite à combattre. Parce que finalement, On verra dans d'autres types de témoignages. Rien n'est jamais écrit d'avance. Alors, c'est certain, statistiquement, il y a certains postes qui suscitent beaucoup de candidatures, mais qu'est-ce que ça coûte de tenter sa chance ?
Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon ?
On s'est dit qu'on n'était pas habilité ni légitime pour parler d'orientation, puisqu'il y a beaucoup d'organismes dont c'est la spécialité, et nous-mêmes, on ne connaît pas les filières, on n'est pas suffisamment compétent là-dessus. Et on s'est vite rendu compte, que, par nos échanges, qu'une des questions qu'on s'est posée, nous, quand on avait 14, 15, 16, 18 ans, c'était « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» avec tout ce que ça peut comporter d'incertitude, de questionnement, de je sais pas, j'ai pas d'idée, etc. Et on a cherché à s'engager sur ce terrain-là. Donc notre idée aujourd'hui, notre façon de faire, c'est de venir parler de nos itinéraires professionnels, des choix qu'on a faits, des aléas qu'on a rencontrés, des retournements de situation, des changements de métier, parce qu'on s'est rendu compte les uns les autres qu'on avait tous eu des accidents dans notre vie professionnelle, que ce soit des licenciements, des maladies, des rencontres aussi, des opportunités, qui finalement... on avait tous plus ou moins fait plusieurs métiers dans notre vie, ou parfois le même métier, mais dans des endroits différents, des circonstances différentes. Donc l'idée, c'est ça, c'est que ce témoignage montre à ces jeunes qu'on ne fige pas sa carrière ou son choix à 18 ans. Quoi. Voilà.
On n'a rien à vendre, on ne veut surtout pas dire voilà ce qu'on a fait, faites la même chose, parce que ce n'est plus possible. Mais c'est quand même la vraie vie professionnelle et ça intéresse tous ceux qui vont bosser.
Oui. Moi, c'est plus une question de vocabulaire, mais quand vous dites vie professionnelle, est-ce que vous englobez aussi tout ce qui est du coup association, stage, etc., ou c'est vraiment un métier
Alors, je parlais des raconteurs, on mélange presque tout le temps la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'on sait très bien qu'il y a des interférences. Moi, j'ai eu 4 enfants, et ça m'a influencé mes choix. Il y a des moments où je n'ai pas démissionné parce que je ne pouvais pas, enfin, je n'osais pas. Donc il y a toujours des liens, donc pour nous c'est un ensemble, c'est pas la vie professionnelle d'un côté, la vie associative, la vie familiale, il y a toujours des liens qui impactent.
Mais ça qui pour nous est important, c'est que c'est pas parce que je rentre dans la vie active avec ce métier-là que je le ferai toute ma vie, que je le ferai de la même manière toute ma vie, je ferai peut-être un autre métier, etc. Donc il y a un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Mais ça ne veut pas dire que la piscine sera toujours la même taille, l'eau a toujours la même température. Non, c'est ça qu'on veut vous faire comme message principal.
Même quand on travaille, on fait des choix qui nous amènent ailleurs. Quoi. Enfin, des choix voulus ou pas voulus, d'ailleurs.
Oui.
Mais on évolue, en tout cas.
Bonjour, Emmanuel. J'ai le plaisir de t'entendre sur un moment où vous devez démarrer ta vie professionnelle, avec une proposition qui t'a posé quand même quelques problèmes.
Oui, oui, qui m'a vraiment fait gamberger beaucoup et réfléchir beaucoup pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'avais 20 ans à l'époque et les 4 années précédentes, j'avais 16 ans, je travaillais tous les étés dans le magasin de mon oncle, qui avait un magasin d'électroménager, et je passais le mois d'août à livrer du matériel, des machines, des congélateurs, des téléviseurs, amener des machines réparées, ramener au magasin des machines en panne. Bref, c'était vraiment moi, un travail de livreur, SAV. Et j'adorais ça. J'allais dans des petites fermes, j'allais dans des villages, dans des villes. Et j'adorais ce contact avec les gens et cette liberté, cette indépendance finalement.
Parce que t'étais payé ou c'était...
Ah ouais, j'étais payé au SMIC, mais j'étais payé quand même. Et la dernière année, mon oncle me dit, écoute... Si tu veux, bon, lui avait des filles dont les maris ou les fiancés étaient dans d'autres études, donc il m'a dit, si tu veux, tu reprends le magasin, tu prends la suite. Moi j'avais 20 ans, il en avait 55 à l'époque. Et, comment dire, c'était quelque chose qui m'a tenté beaucoup, parce que j'adorais ça, mais j'adorais ça pour le mois d'août. Mais du mois de septembre au mois de juillet, j'étais sur d'autres registres, mes rêves c'était la musique, l'écriture... le dessin, l'illustration, donc je me voyais mal m'engager dans quelque chose qui paraissait un peu fermé, un peu trop. Et, première chose, j'avais envie de choisir ma vie, et pas qu'on me la propose, et deux, j'avais pas envie de m'enfermer dans une petite ville de 10 000 habitants. Donc, j'adorais mon oncle, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup et que j'admirais beaucoup, donc j'ai fini par refuser, Et je le regrette pas, parce que je me suis rendu compte bien des années plus tard que c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi.
Ta peine, ta joie, tes rêves, tes cauchemars, ce n'est que ton choix, tes doutes, tes espoirs. Tout est question de foi, croire en l'impossible, ce n'est que ton choix, mais vise la bonne cible.
Est-ce que vous diriez que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de tout ça et que vous êtes raconteur parce que vous êtes satisfait et fier de votre parcours et que du coup vous avez envie de transmettre l'importance de faire des bonnes décisions, ou justement parce que vous avez des regrets par rapport à votre parcours et que vous êtes là pour me dire de ne pas faire les mêmes erreurs?
Pour moi, je vais répondre pour moi, c'est pas parce que j'ai pas de regrets, parce que j'ai bien aimé tout ce que j'ai fait, même si j'ai pris des belles gamelles, même si j'ai fait une faillite, même si j'ai fait plein de parcours cabossés. Mais donc non, il n'y a aucun regret, c'est plutôt l'envie de faire partager un itinéraire.
On pourrait effectivement dire, ben moi j'ai fait cette erreur, ne la refaites pas. Mais ce qui pour moi, à un moment, était une erreur, n'est peut-être pas une erreur pour quelqu'un d'autre, à un autre moment. Moi je considère que d'avoir dit dire non à mon oncle, d'avoir refusé de reprendre sa suite, je pense que j'ai fait le bon choix. Et j'en ai eu la confirmation après, parce que à l'époque, c'était un moment où il n'y avait ni la FNAC, ni Darty, ni les grands réseaux de distribution, donc c'était un magasin indépendant. Mon oncle était un personnage important, tout le monde le connaissait. Donc je me suis dit, prendre la suite, être le neveu de monsieur machin, me retrouver, là je l'ai raisonné a posteriori, avoir dû m'accommoder du fait qu'il fallait descendre l'enseigne Monsieur Marijon et devenir Connexion ou Darty ou la FNAC, enfin, rentrer dans le monde de la grande distrib, parce qu'il n'y a plus d'indépendants aujourd'hui, bien longtemps, dans ce domaine d'activité. Voilà, c'était pas fait pour moi. Donc je me serais probablement cassé la gueule si j'avais repris le magasin. En plus, je me suis rendu compte, déjà sur le moment, mais encore plus après, que son job, c'était un job de management. Il avait 25 personnes dans sa boutique, il manageait 25 personnes. Certes, il avait le sens du commerce, il avait la bosse du commerce, mais voilà. Et ça aussi, moi, manager 25 personnes dans un magasin, c'est pas mon truc. Donc, c'est pas une erreur. Mais peut-être que ça aurait été une autre personne, ça aurait pu se traduire par une erreur. Voilà, c'est ça. Donc, faut pas vous mettre en tête, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. C'est écoutons nos envies. Écoutons, saisissons les opportunités, certes, parlons-en à droite à gauche, ne restons pas tout seuls, parce que là aussi, dans des moments où on se pose des questions, on a un peu toujours l'impression d'être seul seul au monde, quoi. On n'a pas le réflexe d'aller en parler. Et encore moins souvent parce que on se pose des questions, on n'est pas sûr de soi, on dit oui tout va bien, puis ouais, tu vas, je t'en fous, tout va bien. Bon. Donc voilà, donc pas de regret. Et pourtant Dieu sait si, comme Gilles, j'ai connu des moments où j'angoissais chaque fois que je mettais ma carte bleue de voir le petit message paiement refusé. ça m'est arrivé plus d'une fois. Voilà, mais bon, je suis encore vivant. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir le bon ou le mauvais choix. C'est vous, à un moment donné, si vous prenez la précaution de vous ouvrir votre questionnement à, peu importe, à un ami, des parents, de la famille, aller voir un professionnel, quelqu'un qui ne vous connaît pas, voilà, ça vous aidera à vous dire, mais c'est votre bon ou mauvais choix pour vous, mais pas pour votre voisin.
En fait, il faut suivre ses envies. Enfin, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire et c'est pas toujours clair ses envies. Mais en tout cas, il y a des fois, on prend une décision négative en disant « je le sens pas ». Cette expression « je le sens pas », elle a beaucoup de sens. Ça veut dire qu'elle résonne pas quelque part en soi. Et ça, il faut arriver à sentir ce qui résonne et ce qui résonne pas. Et il faut suivre quand on sent que ça résonne pas, il faut pas. Et quand on sent que ça résonne, il faut y aller. Mais je suis d'accord que c'est très facile à dire et c'est beaucoup plus compliqué.
Mmh. Vous savez, en tout cas, qu'on dise non ou qu'on dise oui, bien souvent, sur des décisions comme ça, qui sont quand même pas neutres, on n'endort pas pendant quelques jours après. Hein. Si on m'a dit non, c'est ce que j'aurais pas dû dire oui, parce que j'ai pas fait une connerie, et que si on a dit oui, on a accepté un job, on s'est engagé, on dit moi, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie. Donc voilà, c'est comme dit Gilles, le pif, c'est quand même quelque chose qui compte. Quoi.
Pour moi, le significatif, celui qui m'habite encore le plus, c'est ma reconversion professionnelle lorsque j'avais 50 ans passés d'ailleurs. Je situe un petit peu les choses, donc c'est après une carrière de presque 25 ans en tant que pharmacienne biologiste, donc en laboratoire de bactériologie, virologie, j'ai vraiment éprouvé le besoin, l'envie de sortir de ce, on va dire, de ce microcosme, d'un milieu très spécialisé, d'un milieu un peu confiné en tout cas, voilà, un peu en retrait on va dire, pour aller vers quelque chose de plus relationnel, de plus proche de l'humain, quoi. Alors, je dirais qu'un facteur, un des facteurs, mais un gros facteur déclenchant de ça, de cette réorientation, c'était la maladie, finalement. Hein. Donc, j'étais atteinte d'un cancer du sein, j'avais 45 ans. Au niveau santé, j'ai été bien soignée, ça s'est bien passé. J'ai eu un peu de convalescence, mais c'est vraiment au retour dans le monde du travail que, alors d'une part, j'ai vraiment pris conscience que je ne m'épanouissais plus, et en même temps que cette prise de conscience, je ressentais une grande énergie, c'était une pulsion de vie après la maladie quand même un peu importante, et donc vraiment une énergie, j'avais l'impression de pouvoir déplacer des montagnes à ce moment-là. Et bon, donc, j'ai continué à travailler là où j'étais, mais bon, j'ai fait ce qu'il fallait, enfin, bilan de compétences. Enfin, en tout cas, je suis rentrée dans une période de réflexion, là, pour chercher, mais alors, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, il m'est apparu que j'avais envie de travailler dans le domaine de la santé. Enfin, j'étais déjà dans le domaine de la santé, mais sur un plan tout à fait différent. Et une fois que les choses ont été enclenchées, j'ai fait un choix, j'ai choisi la naturopathie. En parallèle, j'étais déjà dans une formation un peu longue à l'enseignement du yoga, qui peu à peu dans ma tête s'est bien allié avec la technique de santé. Et petit à petit, mon projet a germé et puis a fini par se construire suffisamment pour que je puisse quitter Biomérieux. Et m'installer, en tant que naturopathe et professeur de yoga.
On voit bien que tout ce qui se passe dans nos vies, ça reflète aussi ce qui va se passer dans la vie professionnelle. Enfin, c'est ce que vous disiez, que vous ne mettiez pas de différence. Parce que là, on voit bien qu'après une maladie ou un accident, ils ont été obligés de réfléchir, de prendre du temps. Et du coup, ça a guidé un peu leur vie. Et je pense que... je sais qu'en discutant avec des amis, tout ça, on sait pertinemment que suite à des choses qui nous est arrivées, on veut faire, ça nous guide après pour nos métiers ou nos vies professionnelles plus tard.
Tout à fait. Alors là, effectivement, c'est des accidents, donc c'est un peu brutal et pas choisi. C'est le cas un peu extrême, mais qui arrive. Ça peut être un accident. Moi, par exemple, j'étais dans une entreprise, on a fait faillite, et je suis parti avec 10 collaborateurs pour remonter une autre société. Mais... Donc, il y a des accidents. Et puis, il y a aussi, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, simplement, il y a des moments où on a des choix, où on pousse. On le voyait sur celle qui est devenue prof de yoga. Elle avait quand même commencé déjà, c'est pas la vie professionnelle, elle faisait du yoga pour son plaisir. Et elle en a fait son métier. Donc, en même temps qu'on a une vie professionnelle, on a des à côté qui vont influencer des choix professionnels et qui peuvent même en devenir un métier. J'ai rebondi parfois sur des expériences personnelles qui n'étaient pas du tout professionnelles, des expériences privées. Moi, quand j'avais 20 ans, j'animais des camps d'enfants de 12 ans, 14 ans, etc. Et j'ai découvert une de mes capacités, c'était de savoir faire du budget prévisionnel. Quand les parents me disaient combien ça va coûter, moi j'arrivais à faire un budget et qui marchait à peu près. Puis après, j'aimais beaucoup faire du ski, j'emmenais plein de copains jouer un chalet. Et à chaque fois, je disais, ça va vous coûter tant à l'avance et ça marchait. Et j'ai fait d'autres métiers après, mais j'ai compris que finalement j'aimais bien la gestion. Et par des expériences qui n'étaient pas professionnelles ni formation. Et mon métier après, c'était les systèmes d'information et de gestion d'industrie.
On devient raconteur par, on va dire, par cooptation, j'allais dire, et par envie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'ai rencontré les raconteurs il y a 4 ou 5 ans. On est devenus amis dans d'autres circonstances. Et puis, ils m'ont parlé de cette association. Ils ont vu que j'avais moi-même un parcours professionnel avec des aléas, des bifurcations, etc. Mais comme beaucoup de gens, hein, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse ? Et moi, ça m'a intéressé. Alors, on est ensuite pris en charge, entre guillemets, par un des raconteurs qui va nous aider à rédiger notre récit de manière à ce qu'il tienne dans un format de 20 minutes, de élaguer certains points, et surtout d'orienter notre façon de raconter autour, non pas de raconter un métier, on n'est pas là pour... il y a d'autres gens qui font ça très bien, c'est raconter un parcours, donc s'intéresser au moment charnière. On dit souvent, c'est pas l'os qui nous intéresse, c'est la rotule, c'est l'articulation. Et c'est sur ces articulations-là qu'on travaille. Tant du côté des vidéos qu'on fait, que des récits qu'on peut être amené à faire. Donc on devient raconteur, je dirais, par envie, voilà.
Je suis Amandine Gagnard, je suis coordinatrice du programme de la Résidence pour la Réussite et je suis aussi responsable d'animation pour le CROUS de Lyon. Les RIP sont déjà venus l'année dernière, c'était la première fois qu'ils sont venus. C'était pas une association qui allait parler de filières, de métiers, etc. C'était aller donner des expériences qui rassurent, dans le sens qu'on a le droit de se tromper et tant mieux en fait si on se trompe, parce que c'est souvent là où notre trajectoire elle est déviée et on va tomber sur des choses au final qui vont nous intéresser ou auxquelles on n'avait pas du tout pensé. C'est un peu ces choses, donner de la chance à l'aléatoire, au hasard, et aussi surtout, bah, comme ils disent, aller au devant, aller chercher aussi quoi. Donc, et ça peut toucher toutes les filières, tous les métiers et tous les tranches d'âge qui sont là, qui sont entre 18 et 25 ans. Donc c'est en ça que c'était intéressant.
C'est totalement gratuit. On est entièrement bénévole. On intervient dans la région lyonnaise. On n'intervient pas ailleurs pour des raisons aussi de frais de déplacement et autres, parce qu'on ne souhaite pas prendre en charge ça nous-mêmes et le faire prendre en charge. Donc nos interventions sont complètement bénévoles.
On m'avait dit quand je faisais des études, on n'a pas fait beaucoup d'ailleurs, mais on m'avait dit que tu feras trois métiers dans ta vie et cherche pas le troisième, il n'existe pas. Et maintenant je dis, parce que tout va plus vite, vous ferez cinq métiers, mais les deux derniers, ils n'existent pas encore.
Vous avez compris qu'il ne fallait absolument pas faire comme nous. De toute façon, c'est impossible. Mais que vous pouvez quand même vous inspirer de la diversité des parcours dont on vous a parlé. Mm-hmm. Jeunes gens, bonne soirée.
Oui, bonne soirée. Merci.
C'était super intéressant. Les témoignages étaient vraiment différents les uns des autres. C'était assez marquant de voir que chaque personne avait un parcours qui pouvait lui sembler être unique. Et même à la toute fin, on nous avait rappelé que même si on travaillait 40 ans, 30 ans dans la même entreprise, on pouvait faire des choses différentes et qu'au final, il n'y a pas forcément d'erreur, c'est juste chacun a son parcours et ses choix à faire. Donc ouais, super intéressant et super cool à voir.
Un grand merci aux raconteurs d'itinéraires professionnels, à l'équipe du CROUS et aux étudiants pour l'accueil.
Alors on a écouté plusieurs récits de vie et surtout sur la vie professionnelle de personnes qui ont des itinéraires tous différents. Personnellement, ça m'a beaucoup plu. Ça rend l'avenir moins angoissant et moins pressurisant.
Plus d'infos sur le site lesrip.fr.
Avec des amis de la fac, on discute beaucoup des métiers et personne ne sait vraiment ce qu'on veut faire. Et du coup, je me suis dit que ça permettrait peut-être de voir que bah, finalement, se tromper, ça arrive. Et même mes parents, ils m'ont dit souvent que c'est pas grave de se tromper, etc. Mais au fond, la peur, elle reste quand même. Donc voir que c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est rassurant.
Merci pour leur participation musicale involontaire à Jane Birkin et Mathilde Kaori. Musique additionnelle, John Bartman.
Positive Onde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. Info sebdihl.fr, sebdil.fr.
C'est fini.
Original.
Les 14h.
HTR.
Le mix de toutes les cultures.
C'est sur HTR.